Vous écoutez RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Au renouvellement donc de mon mandat.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
François Hollande s'est résolu à renoncer à se présenter de nouveau quand il s'est convaincu que sa candidature serait plutôt un handicap.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Il l'a dit avec dignité, avec mélancolie, avec sobriété.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut sur RTL.
C'était il y a 2 mois, jour pour jour, vous aviez vécu l'événement en direct sur RTL. On avait, Sidonie, assisté au discours de François Hollande ici même, dans le studio de la
curiosité. Oui, on essayait de décrypter dans son ton,
ouais, hein, dans sa voix, s'il y avait une lassitude, s'il y avait un renoncement. Et François Hollande renonçait justement à briguer un second mandat. Coup de théâtre, qui n'est pas le premier? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec notre invité Olivier Coquart. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue,
vous êtes historien, vous signez un article sur ceux qui ont renoncé au pouvoir. C'est dans le magazine Historia et c'est en partenariat avec... RTL, le discours de François Hollande, est-ce que c'est une première dans l'histoire de la Ve République?
Alors, c'est la première fois qu'un président en position de se représenter annonce qu'il ne se représentera pas alors que tout le monde pensait, espérait, redoutait qu'il se représente. Sinon, ce n'est pas la première fois dans le cadre de la Ve République que des hommes d'État renoncent au pouvoir ou renoncent à l'espoir de briguer ce pouvoir. Pour un président, c'est une première.
Quel mot choisit-il ce soir-là? On réécoute un court extrait de son discours.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé.
Alors, Olivier Coquart, grâce à vous, on va voir qu'il y a un certain nombre de codes, finalement, dans le renoncement du pouvoir. Là, dans les mots de François Hollande, bon, on retient la solennité. C'est forcément solennel?
C'est forcément solennel parce que le pouvoir est quelque chose de solennel qui s'adresse à toute une communauté qu'on appelle un peuple et qui émane assez fréquemment soit de ce peuple, soit de Dieu, et donc dans tous les cas, soit des deux en même temps. Et donc dans tous les cas, il faut en effet que ça soit important.
Et on s'adresse à un public précis,
oui.
quand on renonce, quand un chef d'État, un roi, un pape renonce.
On choisit très précisément, enfin on s'adresse très précisément aux personnes, aux groupes dont émane le pouvoir. Donc quand c'est dans le cadre d'une démocratie ou de ce qu'on estime être une démocratie, eh bien on s'adresse par les médias au peuple tout entier, en l'occurrence ici par le truchement de la télévision.
C'est de la radio, c'est en direct de la radio aussi.
Et éventuellement de la radio comme RTL, excellente station que le monde entier
Merci
nous envie.
Ne l'oublions jamais.
Le monde entier
jamais.
Surtout. Alors ce renoncement d'un président de la République, c'est une première sous cette forme dans l'histoire de la Ve, mais si l'on remonte quelques années avant 1958, en 1946, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il fait?
Ah ben, le général de Gaulle renonce à son poste de président du GPRF, hein, du gouvernement provisoire de la République française, parce qu'il n'est absolument pas d'accord avec une constitution qui propose un poste présidentiel destiné, selon sa célèbre formule, à aller inaugurer les chrysanthèmes. Donc il s'enfonce dans le désert pour une traversée qui en fait est une traversée très relative dans un désert plutôt pas mal peuplé.
De Gaulle qui se retire aussi après le référendum perdu, là on est en 69.
Oui.
Rien ne l'obligeait.
Rien
dans la Constitution.
Rien ne l'obligeait, mais il estime que cet échec référendaire dans le cadre d'un gaullisme qui considère l'aval du peuple comme fondamental pour le pouvoir signifie qu'il n'est plus apprécié. Donc il s'en va, en l'occurrence, selon une formule tout à fait inhabituelle, puisque pour le coup, il lâche un communiqué de presse, et je m'en vais. Et sans du tout faire les tralala dont nous avons parlé.
C'est le contre-exemple.
C'est le contre-exemple qui fait que la règle générale est juste.
Oui. Alors il y a un autre refus d'obstacle spectaculaire, pour prendre un terme d'équitation, dans notre histoire politique récente, c'est Jacques Delors en 1994. On va écouter un extrait de l'émission dans laquelle il annonce qu'il ne va pas à la présidentielle. Mais d'abord, peut-être contextualisons qui est-il et quel est le contexte.
Alors, Jacques Delors a été pendant 10 ans, pendant 2 mandats, le président de la Commission européenne. Il a donc rencontré absolument tous les dirigeants du monde de l'époque. Il est un homme extrêmement respecté qui a donné à l'Europe une véritable aura internationale et qui a donné de l'Europe une excellente image. Et tout le monde voit en lui un très possible successeur pour cet autre très grand homme d'État socialiste qu'était François Mitterrand, dont il avait été ministre. D'ailleurs, il vient juste de publier un livre qui a fait sensation et tout le monde pense que son arrivée sur les plateaux de TF1 est destinée à annoncer qu'il briguera le poste de président de la République. J'imagine qu'une partie de sa concurrence est blême de terreur lorsqu'il prend la parole.
Ouais, et donc il se retrouve face à Anne Sinclair, l'émission évidemment s'appelle 7 sur 7. Effectivement, pendant les deux premiers tiers de l'émission, il déroule son livre programme. Et donc,
absolument,
on peut croire qu'il va se représenter. Et puis, il renonce en direct.
Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle?
Et Anne Sinclair, par exception, je vais lire. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelle que soit les mesures prises après l'élection, ne me permettaient pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui.
Jacques Delors qui ne renonce pas au pouvoir, mais à une promesse de pouvoir. Pourtant, tous les codes du renoncement sont là.
Tous,
dans cette
tous.
Réponse, dans cette lecture.
Il s'adresse au peuple tout entier par l'intermédiaire de TF1 qui alors est vraiment l'immense majorité des téléspectateurs.
Il y a 11 millions, c'est ça,
c'est,
ouais.
C'est tout à fait beaucoup. Extraordinaire sur une France qui,
ça
compte,
fait rêver.
Qui compte à peine 60 millions de sujets à ce moment-là, enfin de citoyens, d'habitants.
On va parler des rois aussi tout à l'heure.
Je vous remercie, c'était une sorte d'anticipation politique ou une crainte anticipatrice. On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, en effet, il adopte tous les codes. C'est-à-dire qu'il donne à ce non-renoncement l'aspect d'un véritable renoncement. Et ce qui est intéressant, enfin, de mon point de vue, c'est la destinée. Après, Jacques Delors devient le vieux sage, le président qui n'a jamais été élu, mais qu'on va consulter en se disant que, s'il avait été président, il
du reprend... coup, c'est le président idéal, d'une certaine façon,
voilà,
puisqu'il n'a jamais exercé le pouvoir.
En fait, il y a d'autres gens, d'autres hommes politiques, comme Pierre Mendès France, par exemple, qui ont un peu eu cette fonction de statut du commandeur, ou Antoine Pinet, qu'on est allé consulter en Bourgogne jusqu'à sa mort.
Renoncer au pouvoir, c'est le thème de notre curiosité sur RTL. On va accueillir là, tout de suite, dans deux minutes, un roi d'Angleterre, Édouard VIII. Mais a-t-il vraiment renoncé au trône par amour?
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ils ont renoncé au pouvoir. On vous raconte les défections surprises de l'histoire dans la curiosité. C'est le thème du magazine Historia de février. C'est en partenariat avec RTL. Olivier Coquart, vous avez signé cet article dans le magazine. On y découvre de multiples renoncements. Certains sont très anciens. On va y venir, bien sûr. Mais on va raconter tout de suite le destin d'Édouard VIII, le roi d'Angleterre. Il est resté longtemps roi.
10 mois.
C'est pas énorme. Hein.
C'est peu.
Quand on voit la longévité d'Élisabeth II.
C'est très très peu, surtout que en principe au XXe siècle, on survit à peu près normalement. Donc il y reste très peu parce qu'en effet, il abdique assez rapidement. Il a succédé à un roi qui était en place depuis le tout début du XXe siècle, Georges V. Il est d'ailleurs remplacé par un roi qui règne jusqu'en 1954, donc plus d'une décennie. Et lui renonce au bout de 10 mois. Pour des raisons qui sont beaucoup plus compliquées que la belle histoire d'amour.
Oui, on va rentrer dans le détail. D'ailleurs, d'abord peut-être pour prendre conscience de ce que ça représente, ce 10 décembre 1936, à quoi renonce-t-il? Que représente l'Empire britannique?
Un petit quart des terres émergées.
Ah oui, quand même. C'est pas mal. Ouais.
Voilà, donc une très grande partie de l'Afrique où seule la France fait concurrence réelle à l'Angleterre. Mm-hmm. Le royaume des Indes, ou plus exactement l'Empire des Indes, hein, ce qu'ils appellent les joyaux de la couronne. Un certain nombre de colonies également en Asie du Sud-Est. Des confettis, évidemment, dans les Caraïbes. Plus des associations privilégiées avec des terres comme l'Australie, le Canada. Qui continue à représenter la tête du roi sur leur timbre-poste, parce que c'est le chef d'État. Hein.
Donc c'est gigantesque.
Donc c'est absolument gigantesque. Ça semble être encore la première puissance mondiale et de très loin.
Quelle est la raison officielle de ce refus?
Officiellement, il veut se marier avec Wallis Simpson. On ne veut pas qu'il se marie avec Wallis Simpson. Et comme les gens sont méchants, eh ben, il s'en va.
Mais qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Pourquoi, on ne veut pas de Wallis Simpson?
Parce que...
Elle vient d'où? C'est
alors,
qui?
C'est une états-unienne. C'est une femme qui... On est quand même à son troisième ou quatrième mariage. Elle est
donc
d'ailleurs en instance de divorce encore au moment où se noue leur idylle. Et puis surtout, c'est une femme dont le parcours personnel est un peu compliqué parce qu'elle a eu des relations extrêmement étroites avec une partie des cadres nazis des différentes ambassades des pays qu'elle a traversés. Elle a probablement une relation intime avec von Ribbentrop, qui est le grand négociateur de Hitler.
Qui était ambassadeur à Londres, c'est
ça ? Qui était ambassadeur à Londres. Lui-même, George VIII, est plutôt... Édouard VIII est plutôt fasciné par les uniformes et les claquements de talons du petit moustachu de Berlin. Donc
ça, c'est un peu la vraie raison que vous êtes en train d'amorcer, là.
Oui, alors, c'est une vraie raison importante, hein. Autour de lui, une partie des conseillers, des dirigeants des dirigeants effectifs de la couronne, puisque la monarchie, le pouvoir monarchique est déjà à ce moment-là un pouvoir extrêmement symbolique, disent que ce n'est pas possible et que l'Allemagne nazie, qui peut être éventuellement un partenaire commercial, ne saurait être un allié fiable, d'autant que Hitler commence à mettre réellement la main sur l'Europe au même moment.
Donc on le pousse à abdiquer.
Alors, on le pousse à abdiquer à la fois pour ses raisons diplomatiques et puis également pour des raisons religieuses. Hein. Il est roi d'Angleterre, donc chef de l'église anglicane, et à ce titre, le mariage avec une états-unienne divorcée, ça ne se fait pas.
Alors, c'est pas le premier roi d'Angleterre à abdiquer. On connaît l'histoire de Richard II grâce à Shakespeare. Quand et comment entre-t-il dans la légende, Richard II ?
Dans la légende, probablement avec Shakespeare, donc aux environs de 1602-1603, puisque la pièce fait partie des commandes qu'Elisabeth Ier a passées à Shakespeare. Cela étant, le fait même de son renoncement fait de lui un roi tout à fait étonnant. C'est le dernier roi de la grande famille des Plantagenets. C'est le successeur d'Édouard III, celui qui a triomphé des Français lors de la première phase de la guerre de Cent Ans.
Pourquoi il l'abdicte, Richard II ?
Ah bah parce qu'il n'a plus personne pour le soutenir autre que sa propre conviction d'être roi. Donc il n'a plus d'armée, il n'a plus de féodaux derrière lui. La plupart des dignitaires de l'Église lui disent qu'il faut qu'il abdique. Et il a face à lui un concurrent qui est lui-même issu d'une très grande lignée royale, hein, qui est Henri de Bolingbroke.
Comment il abdique ? Il écrit un discours ? Il fait un discours, Richard II ?
Oui, il fait...
Il prononce des mots qui vont rester et sonner.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il abdique déjà par le geste. Hein. Il a été... arrêté dans le parcours qui le ramenait vers Londres par Henri de Bolingbroke. Et c'est Henri de Bolingbroke qui conduit le cortège royal vers Londres, ce qui est déjà une humiliation extraordinaire. Normalement, le roi est en tête. Là, c'est Henri de Bolingbroke qui est en tête, et puis ensuite qui est en tête du cortège. Et puis il abdique devant le roi. Il remet sa couronne devant le roi, le Parlement, selon une formule qu'on ne connaît que par des sources un peu indirectes. Donc, on n'est pas tout à fait sûr. Mais qu'est-ce que c'est beau dans Shakespeare ?
Oui, c'est ça. Shakespeare lui a prêté des mots magnifiques.
Voilà, absolument.
Pour cette abdication, Richard II emprisonné, c'est aussi dans la pièce de Shakespeare. On écoute un extrait de la version française. Tiens, ça nous offre le plaisir d'entendre de nouveau la voix de Gérard Philippe.
Nuit et jour, je cherche une ressemblance entre la prison où je vis et l'univers où je régnais. Mais comme le monde est surpeuplé et qu'ici je suis seul, je n'y parviens pas. N'importe, ce qui n'existe pas, je le créerai. Mon vouloir sera l'homme. Mon imagination, la femme. À eux deux, ils enfanteront une génération de pensées, elles-mêmes fécondes. Et celles-là peupleront mon petit univers de créatures, aussi misérable que l'espèce humaine.
Olivier Gauguin, on sait comment Richard II est mort ?
Pas exactement. On sait qu'il est mort en prison qu'il est mort parce que Henri de Bolingbroke redoutait que ceux qui à Londres avaient soutenu Richard II, ceux sur lesquels il s'était appuyé, organisent une sorte de complot pour le remettre sur le pouvoir. Lui-même n'était pas du tout au courant, très probablement, mais il est mort d'une maladie qu'il n'a peut-être pas contractée de façon complètement naturelle. On ne sait pas comment il est mort.
Ouais. Autre exemple de renoncement, ceux des papes au pluriel, car Benoît XVI n'était pas le premier. C'est ce que l'on découvrira ensemble juste après les informations.
Et puis dans notre seconde heure de curiosité, on ira se balader en ville, on oubliera la pollution, le bruit, les voitures, tout ça. On lèvera les yeux, on baissera les yeux, on essaiera de trouver cette petite nature, ce petit vert qui s'efforce d'exister. On apprendra à l'apprécier, les plantes, les arbres. Chouette. Et des fleurs.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité, c'est du lundi au jeudi de 20h à 22h sur RTL. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous si vous nous rejoignez.
Tout à l'heure, vers 21h20, on va admirer cette nature qui a le culot de résister à la pollution, la circulation et au bitume. On va admirer la nature des villes.
Mais tout de suite sur RTL, on continue de vous raconter l'histoire de ces hommes de pouvoir qui ont renoncé au pouvoir.
La curiosité est un vilain défaut.
Habemus Papa.
Deux papes dans l'enceinte du Vatican, c'est bien la première fois de l'histoire.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Quelques jours après avoir déclaré qu'il renonçait au trône de Saint-Pierre.
RTL.
Cette décision historique était uniquement due au grand âge de Benoît XVI.
La curiosité est un vilain défaut.
Benoît XVI évoque le visage défiguré de l'Église.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Ils étaient papes, rois, chefs d'État au fait de leur puissance et pourtant ils ont renoncé au pouvoir comme François Hollande il y a 2 mois, 1er décembre, tout juste. Ils sont nombreux à avoir scénarisé leur départ, c'est ce que l'on découvre avec notre invité, l'historien Olivier Coquard. Je rappelle que vous signez pour le magazine Historia de février un article sur ce thème en partenariat avec RTL. On vient de l'entendre, on va évidemment parler des papes qui ont renoncé et d'abord de Benoît XVI, décision annoncée le 11 février 2013. Coup de tonnerre, comment réagissent le Vatican d'abord, les fidèles ensuite ?
Là, on en parle comme témoin, tous autant qu'on est, autant que plus probablement que comme historien, puisque on n'a pas accès aux sources, mais oui. Grosso modo, la réaction a été une part de soulagement, une part de surprise, et à mon avis très peu d'incompréhension. Surprise parce que Benoît XVI portait un discours théologique extrêmement clair, extrêmement ferme, s'appuyait sur une frange de l'Église qu'on peut considérer comme une frange conservatrice bien identifiée et qui participait à ce mouvement qui avait été inauguré par Jean-Paul II de reconquête catholique. Donc ça, c'est sur... Du coup, on était, il y a eu une part de surprise, peut-être. En tout cas, une part de regret, probablement, pour cette frange-là. Et puis, une part de compréhension, parce que tout le monde voyait bien que...
Il y avait un décalage.
Cet homme-là était âgé et était extrêmement fatigué. Hein. On était fort loin de l'athlète de Dieu depuis les années 1990, depuis le moment où Jean-Paul II avait commencé à porter sur ses épaules la croix de sa mission. Et vraiment, Benoît XVI était visiblement pas en possibilité.
Est-ce que ça, c'était prévu dans les statuts de l'Église catholique de renoncer à sa fonction, sa mission papale ?
Oui, absolument. On a évoqué Célestin V, hein, qui est un pape de la fin du XIIIe siècle, qui s'est beaucoup inquiété parce qu'il a voulu renoncer parce qu'il se sentait incapable de porter la même croix sur ses épaules et qui a donc demandé à toute une série de théologiens si c'était possible de renoncer, qui ont trouvé à la fois des précédents et des textes théologiques le certifiant. Alors il est vrai qu'un de ces théologiens est celui qui est devenu son successeur, Boniface VIII.
Donc il a peut-être théorisé...
il avait peut-être de bonnes raisons pour trouver les bons textes.
Il l'avait bien conseillé.
Son arrivée,
voilà, son arrivée, c'est une convergence d'intérêts.
Voilà. C'est ça. Pourquoi a-t-il renoncé, tiens, ce Célestin V sous pression, lui aussi ? Parce qu'on décline depuis tout à l'heure les codes du renoncement qu'on retrouve un peu de siècle en siècle. Il y a souvent... j'allais dire forcément, une pression extérieure. Est-ce que c'est le cas aussi pour ce pape ?
Alors, oui, Célestin V, c'est un saint, il est d'ailleurs devenu saint Célestin, c'est un moine. Fondamentalement, c'est un moine, son vrai plaisir, c'est de se mettre dans des grottes et d'attendre...
C'est le terrain.
Et d'attendre que les... Même pas, c'est la retraite, hein, c'est l'ermite, la retraite. Il fonde un ordre monastique inspiré de l'ordre bénédictin, qui est un ordre de méditation. Il fait vraiment ça très bien. Mais pour ce qui est d'administrer le pontificat, qui à ce moment-là est une immense puissance politique, temporelle, qui fait de la diplomatie avec toutes les monarchies de la période, il ne sait pas faire, et très très vite, tous les gens qui sont autour de lui lui demandent quelle sera la prochaine maladresse qu'il commettra.
Donc, ça veut dire que ce sont déjà des gens affaiblis, ceux qui renoncent au pouvoir.
À peu près toujours. À peu près toujours, dans le bref relevé qu'on peut en faire, en effet, ce sont des gens qui ne peuvent pas tenir le pouvoir ou qui ne peuvent plus le tenir. Il y a quelques très rares exceptions, c'est le cas par exemple de Cincinnatus.
Alors Cincinnatus, il faut le dire rapidement,
oui,
c'est où,
très
c'est
rapidement, donc c'est un général romain du 5e siècle qui a remporté toute une série de victoires après avoir obtenu un titre, un pouvoir suprême qu'on appelle la dictature, hein, c'est un pouvoir politique pour 6 mois, qui remporte les victoires rapidement et qui dit, voilà, j'ai remporté les victoires, je m'en vais, et qui retourne à la charrue.
Alors dès que il part au sommet, quoi. Oui,
voilà,
bonne idée.
Il part vraiment aussi au sommet. Alors dès que les méchants reviennent attaquer la pauvre Rome, les Romains viennent voir Cincinnatus, l'arrachent à sa charrue et lui disent reprends. Et donc ce qu'il refait, il regagne. Enfin, bon,
vous croyez que c'est le moment que je quitte RTL, là, Thomas?
Au sommet de votre gloire, c'est ça, et de votre puissance. Alors, en toute simplicité,
je reste
Sidonie.
Encore un petit peu, vous voyez.
Est-ce que ça représente un véritable pouvoir?
Parler à des centaines de milliers d'auditeurs.
On peut en débattre.
Oui.
Bon, en tout cas,
oui, c'est vrai.
En tout cas, un petit peu moins que celui de Napoléon, par exemple,
puisqu'on
va raconter aujourd'hui, tout de suite, le 6 avril 1814, qui le contraint à abdiquer. C'est une histoire de tractation, de pression, de négociation.
C'est un autre aspect qui est important, c'est-à-dire que il y a toujours tractation, négociation, comme vous le dites, et arrangement entre celui qui renonce au pouvoir et ceux qui l'ont chaleureusement encouragé à renoncer au pouvoir. C'est également le cas pour Napoléon qui, après avoir constaté l'échec de la campagne de Russie, après avoir constaté la trahison d'un certain nombre de ses généraux alors qu'il résiste en France à l'offensive des Alliés, le maréchal de Marmont par exemple, rejoint ses Alliés.
Il tenait Compiègne, le verrou nord
de la région parisienne. Donc Napoléon est contraint par les terrifiants pépins de la réalité militaire au renoncement.
Mais il espère placer son fils ou l'impératrice, garder une parcelle de pouvoir.
Il souhaite garder une parcelle de pouvoir, que son fils reste en place. Il a pensé abdiquer au profit de l'impératrice. Et c'est d'ailleurs la dernière défection du maréchal de Marmont qui change complètement le rapport des forces, ça se joue en quelques jours, jusqu'à l'apprentissage de cette défection. Il a, depuis Fontainebleau, il ne négocie pas à Paris, hein, il envoie des gens négocier à Paris, ça se passe chez l'inévitable Talleyrand, mais depuis Fontainebleau, il a quand même l'impression qu'il peut encore tenir un tout petit peu la boutique. Et lorsqu'il s'aperçoit qu'il ne la tient plus, il fait d'ailleurs une grosse déprime, une vraie fausse tentative de suicide avec un poison qui ne fonctionne pas parce que
parce qu'il est raisonnable quand même. Napoléon, il va médiatiser son départ.
Oui.
De quelle manière?
On l'a dit tout à l'heure, l'important c'est de savoir à qui on doit son pouvoir, il le doit aux militaires, et donc c'est la célèbre scène des adieux de Fontainebleau. Il fait des bisous oraux à peu près tous ces vieux grognards qui l'ont accompagné dans toutes ses campagnes avec un grand discours comme il savait les faire, et voilà.
Le renoncement finalement, c'est vieux comme le pouvoir, c'est ce que l'on découvre avec vous Olivier Coquart, et c'est ce qu'on va continuer de raconter sur RTL. Alors là, on va remonter très très loin en arrière, vous êtes prêts, la machine à voyager dans le temps?
Prêt.
Jusqu'en mai 305, ça fait loin.
Manque des chiffres, non?
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Renoncer au pouvoir, c'est le titre d'un article du magazine Historia de février en partenariat avec RTL. Et c'est le thème de notre curiosité. Olivier Coquart nous raconte comment les plus puissants des chefs d'État ont parfois rendu le pouvoir. On va découvrir maintenant, grâce à vous, l'histoire de Dioclétien, c'est un empereur romain qui renonce au pouvoir le 1er mai 305. Pourquoi ce destin vieux de 17 siècles est-il passionnant pour nous?
Alors, il renonce au pouvoir pour pérenniser un système qu'il a créé, donc il y a une certaine beauté. Il renonce au pouvoir dans un cadre complètement majestueux, devant une armée en masse, rassemblée. Enfin, ça fait un peu scène de film américain, vous savez.
Péplum.
Le péplum, quand le général surplombe l'ensemble de ses troupes qui sont en admiration devant lui. Donc le cadre est celui de l'Asie mineure, de cet espace qui est tout proche du détroit du Bosphore, c'est vraiment très beau. Et puis il renonce avec des larmes, il renonce en expliquant qu'il renonce pour la pérennisation de Rome. Alors Rome n'est plus dans Rome, elle est à ce moment-là plutôt en Asie Mineure, donc du côté de Nicopolis.
C'est la Turquie actuelle.
C'est juste en face d'Istanbul. C'est juste en face d'Istanbul, sachant que Byzance n'est pas encore devenue Constantinople, et pour cause, puisque Constantin n'est pas encore. Ça arrive, mais c'est pas encore le cas.
Il est pas là. Tout ça est logique.
Donc il a, pour bien comprendre pourquoi cet empereur romain est important, il a transformé l'Empire romain.
Alors lui a vraiment transformé l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il a acté le fait que dans l'Empire romain, il y avait une partie occidentale qui était latine, une partie orientale qui était grecque. Et il s'est rendu compte que pour que l'administration romaine continue de fonctionner, il fallait que ces deux parties soient chacune gouvernées par un monarque. Et il a même eu l'idée complémentaire que chacun de ces monarques, qu'il a appelé les Augustes, hein, puisque Augustus était le titre suprême, c'est celui qui peut lire les augures, chacun de ces monarques devait agir avec un César de Caesar qui devait devenir normalement son successeur. Et donc c'est ce modèle qu'il pérennise, qu'il met en acte en quelque sorte lorsqu'il renonce au pouvoir, ce que son collègue d'Occident fait quelques mois après du côté de Milan.
Donc c'est une succession organisée en fait, il n'est pas forcément poussé dehors.
Il n'est pas forcément poussé dehors, cela étant évidemment son César commence à trouver qu'il prend un petit peu de place, il se trouve qu'il est malade depuis plusieurs mois et que ses compétences militaires se heurtent à la fois à des révoltes intérieures et puis à l'arrivée d'un certain nombre de peuples barbares. Les peuples barbares, lorsqu'on ne négocie pas avec eux, ils se considèrent assez fréquemment, et souvent à juste titre, comme agressé par la puissance romaine.
Alors, le récit de son renoncement, du renoncement de Dioclétien, est raconté par un écrivain chrétien, il s'appelle Lactance. Alors, forcément, le récit, il est un peu critique. Qu'est-ce qu'il raconte de ce moment?
Pourquoi il critique d'ailleurs? Parce qu'il en voulait aux chrétiens, cet empereur romain?
Dioclétien trouve que les chrétiens détruisent ou sont des dangers pour l'ordre public, ne serait-ce que parce qu'ils refusent de sacrifier aux genius de l'empereur. C'est-à-dire qu'il refuse de sacrifier au culte impérial en disant « moi je sacrifie qu'à Dieu ». Alors c'est un petit peu comme si aujourd'hui on se déplace sans ses papiers. C'est refuser d'accepter la citoyenneté romaine. D'accord. Depuis le début du 3e siècle, les Romains ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour étendre cette citoyenneté. Là, les chrétiens leur disent oui, mais pas comme ça.
Et donc ce Lactance, cet écrivain chrétien, il se venge dans son récit de l'abdication de Dioclétien ?
Il ne se venge pas, il explique pourquoi c'est mal de ne pas aimer et d'avoir un peu persécuté les chrétiens.
Ces larmes dont vous nous parliez, elles étaient feintes ? C'est une mise en scène, alors c'est difficile, hein, c'était il y a 17 siècles, mais on peut l'imaginer ?
Je ne crois pas. Je pense qu'on est vraiment ému quand on abandonne un tel pouvoir. Parce que l'Empire romain d'Orient, c'est très important. Donc je pense qu'il y a une vraie émotion. Alors après, il a mal, il est vieux. Tout ça contribue à une capacité lacrymale importante.
Dans sa passation de pouvoir, Dioclétien, il y a une couleur qui va jouer un rôle important. C'est le pourpre. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette couleur?
C'est la couleur rouge. Alors, elle symbolise le pouvoir, à la fois parce qu'elle rappelle le sang. Hein, assez fréquemment, les enfants, les bébés destinés à devenir monarques naissent dans la pourpre, ils sont porphyrogénètes, hein, c'est le terme qu'on utilise. Et par ailleurs, c'est d'autant plus une couleur de pouvoir que ça coûte extrêmement cher à obtenir, la pourpre. Et donc quand vous avez de la soie pourpre, alors là c'est vraiment le symbole, hein, c'est des cadeaux tout à fait prestigieux qu'on fait. Et donc le pouvoir, le pourpre a toujours été dans l'espace méditerranéen un signe de pouvoir.
Olivier Coquart, certains de nos auditeurs se demandent peut-être, mais ça passe au-dessus de nous, l'histoire de cet empereur romain d'il y a 17 siècles. Pourquoi son renoncement est important? Parce qu'il y a déjà là-dedans tous les codes de ce qui va se passer jusqu'à François Hollande il y a deux mois.
Alors, l'avenir nous dira si c'est jusqu'à... Quoique, nous avons déjà des indications selon lesquelles François Hollande est en train de mettre ses pions pour devenir autre chose dans des instances internationales. Alors, notre ami Dioclétien fait exactement ça. Donc, il renonce cérémoniellement devant ceux à qui il doit son pouvoir, face à ceux qui le remplacent et qui lui ont qui l'ont encouragé à démissionner. Et par ailleurs, il a négocié l'affaire. Et donc, on lui offre un petit séjour de retraite plutôt agréable sur les rives de la Méditerranée. C'est ce qui est aujourd'hui la ville de Split. Split, c'est Spalatum, c'est le palais de Dioclétien. Et c'est donc un palais absolument magnifique où il tient un rôle jusqu'à sa mort de vieux sage que l'on va consulter lorsque, entre Tétrarque, c'est le nom des empereurs romains, des deux Augustes et des deux Césars, lorsque, entre Tétrarque, on ne s'entend plus. Donc, en 307, deux ans après, on vient consulter le vieux sage.
Souvent, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure pour Jacques Delors, par exemple.
Absolument.
Souvent, c'est puissant qui quitte le pouvoir. On en a connu quelques-uns. Espère revenir. Il y en a certains même qui reviennent, souvent.
Non, c'est très rare. La plupart du temps, ils sont exécutés s'ils veulent revenir.
C'est radical. Bon, ben merci beaucoup.
Message, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, enfin, si, ils peuvent être exécutés par l'opinion qui ne souhaite pas les voir revenir au pouvoir. Et on a eu quelques exemples.
Et le message est assez clair
récents.
En général.
Merci beaucoup, Olivier Coquart.
Votre
article est à lire dans le magazine Historia de février, c'est en partenariat avec RTL.
Et dans un instant, on part se balader en ville. On va découvrir cette nature qui se faufile dans le bitume, qui s'accroche, qui résiste, qu'elle est belle. Restez à vous. Avec nous, pardon. Restez à vous aussi sur RTL.
Vous écoutez RTL.